Et toi, est-ce que tu lutterais ?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde édition de notre podcast Impact, une rencontre mensuelle où nous traiterons librement et longuement de divers sujets sociétaux, culturels et d'actualité. Impact documente et réfléchit sur de grands thèmes avec des intervenants, des interviews, des données, ainsi que des pistes de réflexion pour aider à comprendre notre monde contemporain. Ce mois-ci, en écho avec la journée de la femme ce mercredi 8 mars, nous nous pencherons sur la situation des femmes iraniennes suite aux nombreuses répressions ayant lieu dans ce pays. Ainsi, nous nous appuierons nos propos sur la conférence « Femmes en lutte ici et ailleurs » qui s'est déroulée le 4 mars à la Seyne-sur-Mer, à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, ainsi que sur des témoignages. Mais tout d'abord, il est nécessaire de faire le point sur le régime iranien afin de comprendre son autorité envers les femmes. Alors tout commence lors de la révolution iranienne en 1978. Celle-ci conduit l'ancienne monarchie dirigée par le Shah, allié des États-Unis, Mohammad Reza Pahlavi, à se convertir en une république islamique avec à sa tête un chef religieux, l'ayatollah Khomeini, en 1979. L'Iran place ainsi la religion musulmane chiite au cœur de son fonctionnement et devient ainsi une théocratie. Aujourd'hui, bien que l'Iran ait un président, la plus haute et la plus puissante autorité du pays reste l'ayatollah Ali Khamenei, au pouvoir depuis 1989, puisque ce dernier supervise les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Mais alors, quel point de vue abordent les ayatollahs sur la condition féminine en Iran ? Eh bien, les femmes sont tout simplement les premières victimes des ayatollahs. En effet, l'ayatollah Mohamed Azdi, dans les années 90, avait déclaré la phrase suivante « Votre femme, qui est votre possession, est en fait votre esclave ». De plus, les accusations faites à l'Iran sont constamment niées, notamment par la plus grande instance du pays. En effet, sous Khomeini, en 1978, on prétend ceci « Tout ce que vous avez entendu concernant la condition féminine dans la République islamique n'est qu'une propagande hostile. Dans le futur gouvernement, les femmes seront complètement libres dans leur éducation et dans tout ce qu'elles feront, tout comme les hommes ». Toutefois, il s'agit d'une déclaration qui est facilement contestable puisque les témoignages auxquels le monde a accès sont révélateurs de ce mensonge d'État. Ainsi, après cette mise au clair du régime politique iranien pour comprendre la situation de ces femmes, Lily va nous présenter les témoignages que nous venons à l'instant d'évoquer.
En effet, il est important d'évoquer le combat que mènent certaines militantes iraniennes aujourd'hui devenues de réelles figures des protestations en faveur des droits des femmes. Alors tout d'abord, nous avons Manaz Parakan, une avocate iranienne qui, ce 10 décembre dernier, à l'occasion de la Journée internationale des défenseurs des droits humains, a accordé un entretien à l'ONU dans lequel elle revient sur son passé, son combat et sur la situation des femmes iraniennes. Au sein d'un environnement censé façonner ses valeurs et ses interactions, elle reçoit une éducation patriarcale où les femmes sont facilement jugées et rejetées par la société, et dans laquelle son père refuse son entrée à l'université, bien que son frère, lui, y soit encouragé. C'est alors que son combat débute dans les années 1980, au sein de sa propre famille. Toutefois, ce dernier devient très difficile, puisque dès l'âge de 22 ans, elle est arrêtée pour avoir participé à des manifestations politiques avec des centaines d'autres femmes. Pendant 3 mois, le temps de l'interrogatoire, Manaz, Paragan et les autres sont torturés. Je cite, « torturés à coups de matraque et de crosse de fusil sur tout le corps, ainsi qu'à coups de câbles électriques sur la plante des pieds, à tel point que je ne pouvais plus porter de chaussures ou marcher. » Il est aussi important de relater que Manaz Parakan n'a pas eu le droit à une vraie justice, puisqu'en effet, après avoir enduré 3 mois inhumains, sa peine n'a finalement pas été discutable, puisqu'on ne lui a pas donné l'occasion de se défendre. Alors bien qu'en fin de compte, elle a été commuée, c'est-à-dire qu'on a finalement revu sa peine à la baisse, Manaz Parakan a été, comme elle le dit elle-même, jugée et condamnée à mort aussi rapidement et aussi simplement que cela. Manaz Parakan est une femme parmi des milliers à avoir vécu ces violences et c'est aujourd'hui le nom de Mahsa Amini qui résonne dans le monde entier plus que jamais. Alors pourquoi cela ? Eh bien parce qu'il s'agit d'une femme de 21 ans qui s'est vue être passée dans un centre de détention par la police de la moralité car son hijab était mal posé, donc par une force religieuse dont l'objectif est de circuler dans les endroits publics pour faire respecter les lois islamiques reliées aux femmes. D'après le témoignage de ses camarades de détention, Mahsa, après être tombée dans le coma, décède le 16 septembre 2022 pour coups et blessures, bien que les autorités locales déclarent une crise cardiaque. Toutefois, ce drame a été entendu par le monde entier et est désormais au fondement de manifestations sans précédent dans le pays. Dans plus de 80 villes, des milliers et des milliers de femmes et d'hommes clament le slogan suivant « Femme, vie, liberté » afin de revendiquer l'arrêt du port obligatoire du hijab ainsi que l'abolition de la police de la moralité et le traitement juste et égalitaire des femmes. De plus, nombreuses sont celles qui retirent leur hijab et le brûlent devant les forces de l'ordre, un signe de protestation très symbolique dans un pays guidé par la religion. On peut notamment remarquer que ces deux exemples de femmes ayant subi des violences sans précédent en Iran ont une temporalité différente puisque presque 40 années les séparent, ce qui montre un comportement et une vision inchangée de la femme en Iran. Désormais, je laisse la parole à Martha qui va aborder la question des facteurs d'inégalité et des avancées des droits de ces femmes en Iran au travers de ses recherches personnelles et de son interview avec une intervenante de la conférence « Femmes en lutte ici et ailleurs » ciblée sur les femmes afghanes.
Il est vrai que l'Iran est soulevé depuis 5 mois par des mouvements de révolte du peuple contre le pouvoir et ses répressions. Cependant, les femmes ont-elles déjà réussi à gagner ce combat dans le passé, à acquérir plus de liberté et de légitimité au sein de leur pays où le traditionnalisme influence considérablement ? Depuis 1975, la légitimité de la femme dans la famille iranienne augmente continuellement, puisqu'on a constaté au sein des familles iraniennes une marche vers la démocratisation et la réduction du rôle de l'homme dans la prise de décision. Pour parler en chiffres, en 1975, pour 72% des sondés, ce sont des hommes de la famille qui prennent les décisions, face en 2004 à 33% seulement. La nécessité de l'alphabétisation des femmes a également pris de l'ampleur puisqu'on assiste, ces dernières années, à un pic de scolarisation féminine en Iran. En effet, durant l'année universitaire 1977, il y avait en Iran environ 175 000 étudiants, dont 30,8% étaient des femmes. En 2011, comptait environ 4 100 000 étudiants en Iran, dont 51% de femmes. Cependant, cette évolution soulève d'autres questions, comme le mécontentement de certains Iraniens, qui se traduirait par des cas d'empoisonnement dans les écoles de filles en Iran. En effet, depuis 4 mois, le cas d'écolières empoisonnées se multiplie. D'après les estimations données ce mercredi 1er mars par la porte-parole de la Commission parlementaire de la Santé, près de 800 élèves ont été infectés, dont un grand nombre ont été hospitalisés. Cette affaire d'intoxication collective attribuée à des opposants à la scolarisation des filles a provoqué une grande émotion dans le pays, où des voix dénoncent la passivité des autorités face au nombre croissant d'établissements touchés.
Après avoir assisté à la conférence, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec une des organisatrices de cet événement. Elle a un message à faire passer aux jeunes.
Indignez-vous, révoltez-vous, enfin, faites quelque chose. C'est vous qui êtes derrière, hein. Moi, plus grand-chose à montrer et à prouver, mais putain, tout ce qui s'est passé en 68, c'est vrai que pour vous c'est tellement loin, mais nous on y était, c'était une... un mouvement là, qui vous soulevait l'âme et le cœur pour dire aux gens qu'on les aimait et qu'on allait faire quelque chose ensemble. Quoi. C'est pas possible, on ne peut pas laisser la société comme elle est.
Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté notre second épisode jusqu'au bout, et pour ça, merci beaucoup. Et en quelques phrases, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette chronique ? Tout d'abord, grâce au témoignage des deux militantes iraniennes, nous avons pu développer un regard beaucoup plus pointilleux sur la répression qui s'abat sur ces femmes et le combat qu'elles doivent mener à bien depuis plus de 40 ans afin de bénéficier de simples droits, pourtant si difficiles à acquérir. Avoir participé à la conférence Femmes d'ici et d'ailleurs nous a donné la chance de rencontrer des membres de l'association NEGAR, soutien aux femmes afghanes et iraniennes, ainsi que de la Ligue des droits de l'homme. La situation actuelle pour les femmes en Iran ainsi qu'en Afghanistan ne fait cependant que s'aggraver, allant de l'interdiction d'écouter de la musique dans tout le pays jusqu'à prohiber l'accès aux femmes dans les parcs ou encore aux écoles. Cependant, une nouvelle forme de contestation s'installe, un grand nombre d'Iraniennes osent s'afficher dans l'espace public sans hijab ni manteau islamique obligatoire, marque ultime de désobéissance civile, leur permettant de signifier leur rejet de la République islamique sans risquer de subir la répression sanglante des forces de sécurité, une stratégie longtemps payante.